19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission, la dernière de cette semaine en votre compagnie sur l'antenne de Beurre FM. Nous sommes le vendredi 20 septembre et vous êtes dans Time Sport. Restez donc à l'écoute comme chaque soir de 19h à 20h pour bien partir en week-end, on vous le promet, avec vous, chers auditrices et auditeurs, dans cette émission. On le rappelle, vous pouvez réagir avec toute l'équipe en composant le 01 53 48 3000, mais aussi sur la Twittosphère pour réagir avec vos consultants de ce soir. Au menu de cette émission, on reviendra sur les Verts de Saint-Etienne qui ont débuté leur campagne de Ligue Europa. On parlera aussi du Parc des Princes, l'antre du PSG, théâtre de la campagne pour la mairie de Paris, mais aussi Lorraine, Celtic Glasgow en Ligue Europa, le match de la 6e journée qui promet d'être assez coriace. Olympique Lyonnais qui reçoit le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel ce dimanche soir, sans oublier le coup d'envoi de la fameuse Coupe du Monde de rugby au Japon. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir avec moi, pour m'accompagner, on aura Brice Tailly, sans oublier Bruno Aoyo, mais Kamel Aït Kaira, le président. Comment ça va, Kamel?
Ça va, Bilal. Heureux d'être parmi vous ce dernier jour de la semaine. Et puis un grand bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Beurre FM.
C'est fait. Claude Tollé, le coach, comment ça va, Claude?
Impeccable, bonsoir tout le monde. On est toujours content d'être ici.
Et on accueille une autre personne, un consultant phare de Beurre FM. Il a aussi traité l'actualité du ballon africain, mais aussi venu d'ailleurs dans l'émission de Mohand que vous pouvez retrouver, on le rappelle, chaque dimanche soir, fou de sport, 18h-20h, le petit clin d'œil à toute la commune de Rouen et aussi en la personne de Mohand, le micro d'or de Beurre FM. Et je veux bien sûr parler de notre consultant lyonnais, Haider Naïmi. Comment ça va, Haider?
Salut Bilal, salut tout le monde, ça fait plaisir de revenir, ça faisait un petit moment et c'est toujours un plaisir de revenir à Beurre FM.
Et ça nous fait plaisir aussi de l'avoir avec nous ce soir. Bon, on a aussi Yanis hein, qui partira rapidement après en week-end, notre réalisateur. Faites comme lui, vous restez cramponnés, bien à l'écoute de Time Sport et c'est parti.
Time Sport, le ras-le-bol.
L'Europa League, la Gantoise, Saint-Etienne, les Verts ont débuté justement leur campagne de Ligue Europa jeudi soir par une défaite sur la pelouse de la Gantoise. 3-2. Les Belges ont dominé, je le rappelle, les Stéphanois, souvent pathétiques en défense, à l'image de leur capitaine Loïc Perrin, buteur contre son camp, malheureusement sur le 3e but belge à la 64e. Est-on à côté de la plaque en jugeant cette défaite logique? Haider, on t'écoute.
Disons que quand tu vois le niveau défensif de Saint-Etienne, tu te dis qu'il y a beaucoup de boulot. Après,
ça a recruté quand même, un nouveau budget pour cette saison.
Moi je trouve que ça, à Saint-Etienne, on recrute pour dire qu'on a recruté, mais c'est pas encore ça. Après, globalement, moi je pense qu'ils ont raté le coche ces dernières années, parce que Saint-Etienne, leur boussole c'est Lyon, donc ils font tout en fonction de ce que fait Lyon. Et pendant ces années où Jean-Michel Aulas a dû faire des économies par rapport à son stade, ils ont raté le coche, ils n'ont pas été au niveau. Ils auraient pu se battre pour gagner des places qualificatives pour la Champions League. Mais en réalité, j'ai l'impression qu'ils sont contents de ce qu'ils font, de là où ils sont. Ils ne se prennent pas trop la tête. Et du coup, ça donne une équipe qui accroche des petites places en Europa League, comme d'habitude, sans vraiment vouloir les jouer. Et c'est dommage. Et là, vu ce que j'ai vu hier... et leur début de saison, ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'il y a eu des lacunes défensives qui sont pas de bon augure pour
Saint-Etienne. Oui. Le coach Tollé, c'est stéphanois. On croyait justement, et même pour les Rennais, mais ça a peiné pour nos clubs français hier soir en Europa League.
Ça a peiné. Saint-Etienne, c'est un petit peu à l'image de leur début de saison en Ligue 1, hein, qui a du mal vraiment à repartir. Et puis tu sens que tu as le spectre de Jean-Louis Gasset qui est toujours là. Donc tu as son adjoint Ghislain Printemps qui a repris les rênes. Mais tu sens que c'est difficile. Et puis sur la rencontre d'hier, il n'y a pas grand chose à dire dans la mesure où il y a eu des fautes techniques assez importantes. Et le fait que les cadres soient pas au niveau. Enfin, on parlait de Perrin, Yann Villa n'a pas été le métronome du milieu aussi. Enfin, il y a Cabaye qui reprend à être en difficulté, Ruffier pas décisif non plus. C'est tout un collectif qui se cherche. Et c'est vrai que quand tu vois le recrutement, t'as quand même des joueurs relativement intéressants, mais Mais ouais, là, ça, c'est difficile. On pensait que la saison allait être lancée hier soir, mais non, c'est pas le cas. On se rend compte que c'est un peu plus profond que cela à Saint-Étienne.
Kamel,
bah moi, je pense qu'au niveau de Saint-Étienne, c'est le remplacement de Gasset par Printemps. Moi, je pense que déjà, ils ont du mal à digérer le départ de Gasset. Et surtout, là où ils ont du mal à digérer, c'est que Gasset a quasiment imposé Ghislain Printemps en tant que coach numéro 1. Et on sait très bien que Ghislain Printemps, en tant qu'adjoint, il est très bon, mais en tant que coach numéro 1, c'est assez compliqué pour lui. Et puis aussi, la direction Saint-Étienne n'attend qu'une chose, c'est qu'un faux pas de Printemps pour s'en séparer, parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour le garder. Mais comme il y avait un ultimatum de Gasset et surtout des joueurs, un cadre comme Mvila, etc., qui partaient si Printemps ne restait pas. Donc je pense que moi, ils déroulent tranquillement. Après, moi, ce qui m'a inquiété hier, et là où je suis pas d'accord avec Printemps, c'est son système de jeu, hein. C'est jouer avec deux joueurs devant, Amouma et Kazri, qui sont pas des attaquants, c'est des joueurs d'espace. Donc, ça veut dire que ils vont récupérer le ballon et ils la donnent à qui? Il y a plus personne devant, parce que eux, c'est des joueurs qui prennent l'espace, etc. Donc, pourquoi toujours chercher des, c'est le problème, c'est symptomatique des clubs français. S'ils jouent pas pour gagner, ils jouent pour ne pas perdre. Et c'est là la différence se fait, que ça soit en Coupe d'Europe, etc. Tu as le plaisir de jouer en Coupe d'Europe, joue l'attaque. Là, à un moment donné, quand ils ont fait rentrer Béric, ça a été un point d'appui pour Amouma.
On le voit un peu trop souvent avec les clubs français.
Oui, c'est ça. Ouais. On joue
surtout
pas pour
en Ligue Europa.
Voilà, en Ligue Europa, fais-toi plaisir. Perds 4-3 s'il faut, 5-4.
Il y a un autre problème aussi avec l'effectif de Saint-Etienne.
Alors c'est quoi?
C'est qu'on a recruté des mecs qui ont un ego qui est assez gros. Et Printemps, c'est l'entraîneur sympa qu'on aime bien. C'est le vieux papy.
Mais c'est le bon entraîneur adjoint.
Voilà,
c'est ce que je dis.
Ils le respecteront pas, parce que les gars ils ont quand même un gros melon. Kazri, Mvila, comment il s'appelle, Debuchy, c'est des mecs qui ont été quand même dans des gros clubs, et pour eux, qu'on le veuille ou non, avec tout le respect qu'on doit à Saint-Etienne, c'est une régression d'aller à Saint-Etienne.
Ouais, mais ils plombent alors le projet qui est mis en place par les Verts.
Ouais, mais les mecs, faut pas se leurrer, ils sont venus pour se relancer. Saint-Etienne, ils s'en balancent complètement.
Respecter quand même, dans la mesure où, même si c'est vrai que Gasset avait une influence extrêmement importante,
incroyable,
Ghislain Printemps était son bras droit, son adjoint, donc ils étaient quand même avec lui, c'est quand même lui qui animait aussi les séances, etc.
Mais Printemps, je trouve qu'il n'est pas comme Gasset, c'est pas lui qui va leur remonter les bretelles si les mecs marchent sur le terrain, quoi.
Mais je pense pas qu'ils vont se dire voilà, c'est Ghislain, donc on ne le respecte pas.
Ils craignent, entre guillemets, moins Printemps que Gasset.
Claude, on a vu cette discussion. Il y a une totale différence entre être un bon être adjoint, hein, parce que l'adjoint, tu vois ce qu'il sait, c'est l'assistante sociale des joueurs, il ne fait pas les équipes, etc. Tous les joueurs de tous les effectifs du monde aiment les coachs adjoints. Ils les adorent tous, de A à Z, parce qu'ils sont là pour, même s'il faut, si c'est eux qui préparent l'entraînement, les séances d'entraînement, mais au niveau humain, c'est eux qui ça. Mais quand un adjoint passe coach numéro 1, c'est plus pareil, bah
c'est
parce qu'il prend des décisions.
Il fait parfois des choix.
Et quand on fait des choix,
ça dépend du profil de l'entraîneur.
Non, mais attends, quelques fois, mais là, à un moment donné, quand tu fais des choix, tu vas éliminer des joueurs. Et là, les joueurs, ils ont plus les mêmes réactions avec toi. Parce que quand tu mets un joueur remplaçant, alors que tu avais adjoint, t'étais bien avec lui, là, quand tu passes numéro 1, tu vas le mettre remplaçant.
Je suis d'accord avec toi, mais regarde, tu prends l'exemple comme Christophe Galtier, qui a été longtemps adjoint à Marseille, à Lyon.
Il n'est pas passé. Ce que je veux dire, c'est quand un adjoint, il est adjoint dans le même club.
Il est passé d'adjoint à numéro 1 à Saint-Etienne, et on sait ce que ça a donné ensuite. Il était adjoint au départ. C'était Alain Perrin qui se fait limoger.
Galtier, on va dire.
C'est l'exception qui confirme la règle.
Galtier, il a quand même un tempérament que Printemps n'a pas.
C'est une question de personne aussi.
C'est une question de tempérament, et Printemps, il l'a pas.
Voilà. Et puis n'oubliez pas une chose importante, Claude.
Ouais.
C'est que Printemps, il a pas été pris comme ça. On l'a imposé. C'est ça la différence.
Fait-on face à ces terribles mais habituels jeudis noirs européens, strictement célébrés par des noms en match ou par nos équipes qualifiées, comme le disait Kamel ou encore Aïder dans le tourbillon des joutes européennes, ou Saint-Étienne tout de même nommé, tout simplement pas un pied devant l'autre comme en championnat de Ligue 1 Conforama. Claude.
C'est vrai que tu as la difficulté pour nous, club français. C'est pas le cas de tous les clubs de ne pas jouer à fond la Ligue Europa. Souvent, ce qu'on entend, c'est que la rencontre a lieu le jeudi, donc le temps de récupération et fait que c'est un petit peu compliqué, donc tu fais un petit peu tourner, donc tu mets des joueurs qui ont manqué un petit peu de rythme, qui n'ont pas été forcément titulaires, tu veux les remettre un petit peu dans le bain, et c'est vrai que c'est dommage, mais je pense que là c'est un vrai problème de mentalité que l'on a en France, c'est qu'on joue pas la Coupe d'Europe à fond, tout simplement. La Ligue Europa, je pense qu'elle est quand même à portée, je parle pas de la gagner, mais du moins de jouer les coups à fond. Rennes l'a bien fait, notamment la saison dernière. Ça leur a permis de franchir, je pense, un cap. Mais c'est vrai que, en général, c'est relativement
décevant.
C'est
la mentalité. Moi, j'ai regardé le multiplex Ligue Europa hier sur la chaîne concurrente. Et sincèrement, quand tu vois les joueurs des autres équipes, des autres pays, quand ils marquent un but, on a l'impression qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Ils la jouent à fond, la Ligue Europa. Ils donnent leur âme. En France, on chipote. On va jouer dimanche. On n'a que deux jours de repos. Tatati, tatata. On dirait qu'ils vont à la mine. Il y a un moment donné, arrêtez. Jouer au football, jouer tous les trois jours, c'est pas fatigant.
Allez, on termine sur cette chaîne avec toi, Aïda.
Il y a un problème avec la Coupe d'Europe qui est très simple. Quand on voit les stats et qu'on voit que les gens considèrent le championnat de France comme un grand championnat, mais qui n'a gagné qu'une seule Ligue des Champions, et qui est une stat ridicule, c'est pour une raison très simple. Le championnat de France et le football français n'a pas de culture européenne. S'ils avaient compris depuis des années que briller en Ligue Europa, ça leur donnait du crédit, ça donnerait aux joueurs de venir signer chez eux, envie de venir signer chez eux, il y a beaucoup de problèmes qui auraient été réglés. Ouais. Mais en France, on est tellement nombriliste que le championnat de France, c'est bien. Et puis la Ligue Europa, ça intéresse personne parce que, mis à part, c'est toujours le même club qui fait des perfs là, dans ce truc-là. Ouais. C'est le seul club français qui a une culture européenne, c'est l'Olympique de Marseille.
Allez, pour toi, c'est l'OM. Bon, on va voir. On quitte Marseille un petit moment et on va rester dans l'antre parisien avec le Parc des Princes. Time Sport. Le Parc des Princes, théâtre de la campagne pour cette élection à la mairie de Paris 2020. Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Benjamin Griveaux, Cédric Villani ou encore Rachida Dati, candidat déclaré pour l'élection municipale de 2020, ont assisté mercredi soir au fameux Paris Saint-Germain-Real Madrid. 3-0, on le rappelle, au Parc des Princes. Le football est-il encore de nos jours, messieurs, un terrain sur lequel pourrait se jouer la campagne de manière aussi criante? Kamel, on t'écoute.
Moi, je pense pas que ça se joue sur. Ils veulent se montrer, je pense. Ils sont là, c'est un grand match. PSG Real de Madrid, c'est un match, c'est le top des tops.
Oui,
ils
sont
là,
belle affiche.
Ils sont là, ils vont manger des petits fours. Ils sont là pour se faire montrer, essayer de récupérer le maillot de Benzema ou de Zidane.
Ils sont bons, les petits fours, qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais je veux dire, ils connaissent rien au football. J'espère juste que ce que j'espère, c'est que ces politiques, quand ils viennent au stade, ils nous fassent pas le coup de notre ministre des Sports à nous sortir. Oui, ça dit des gros mots, ça dit ça. Moi, je pense qu'ils sont là pour se montrer et même parce que. Comment ils réagissent les politiques? Si mon adversaire est dans ce lieu, moi j'y vais aussi. C'est ça, c'est combler la chaise vide. Les politiques, c'est souvent ça. Quand ils sont en campagne, ils veulent combler la chaise vide. C'est-à-dire, ils veulent pas laisser la place à leur adversaire politique.
Que peut vraiment et sérieusement espérer récolter un candidat qui se présente dans la corbeille de ce fameux Parc des Princes à Hyder?
Moi, à la limite, déjà, le premier conseil que je leur donnerais, c'est de faire ça de manière un peu plus subtile.
Ouais.
Parce que quand on voit, après, j'ai rien contre lui, mais. Je veux dire, Villani, il a toujours cultivé cette dégaine de premier de la classe, matheux avec son petit nœud papillon et tout le tralala, son langage un peu médiéval. Et là, il se met à regarder du foot, personne mord à l'hameçon. Rachida Dati, c'est pareil. Bon, Anne Hidalgo, elle a toujours joué le jeu parce qu'elle est maire de Paris en titre, entre guillemets. Donc, mais je leur conseillerais d'avoir un peu plus de subtilité. Ensuite, est-ce que ça marche? Ça marche pas? On va dire que le foot, c'est devenu ça dépasse le cadre sportif depuis longtemps. Après, voilà, je pense qu'il y a plus un côté people. Et comme l'a dit le collègue, il y a une politique de la chaise vide qu'il faut absolument combattre. La course à la mairie de Paris est lancée. Et ils doivent le faire. Ça fait partie du jeu. Après, moi, si j'ai un conseil à leur donner, c'est d'être un peu moins ridicule, un peu plus subtil. Et puis, ça passera.
La ficelle n'est-elle pas tellement grosse que celle puisse en être ridicule, surtout quand on se rend compte, messieurs, assez facilement de l'inculture footballistique de certains, dont l'intérêt pour les choses du foot est proportionnellement inverse à la hauteur de leur ambition. Le coach, pour toi, justement, avec tout ce qui va se passer à l'approche de ces élections 2020.
Franchement, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce qui a été dit.
Oui.
Non, mais dans la mesure où c'est connu de les voir, de voir les politiciens assister à une rencontre. Là, tu joues le Real Madrid. voilà, t'as les élections qui vont arriver, bah ils ont besoin de se montrer, c'est parti du, c'est leur jeu, c'est comme ça, tu sais, même à notre niveau en amateur, Kamel il le sait, lors des événements associatifs, bah les,
ouais. Ils, toi, si tu y vas, c'est ça.
Non, mais ils viennent ouais. À mes événements.
Eh oui.
Eh oui, donc non mais c'est connu après, pas grand chose à rajouter
après,
quoi.
Non, faut juste qu'ils glissent pas sur certaines peaux de banane parce que le foot c'est comme certaines religions, si t'y connais rien t'es grillé, ouais, vite t'es fait. Grillé, ouais. Et là par exemple, on a vu la ministre des Sports qui a voulu faire la maligne sur l'histoire de l'homophobie, tout ça, sans comprendre. Attention, hein, ce que je vais dire, je vais pas aller à justifier des choses comme ils ont fait en Italie, mais sans comprendre entre guillemets le vocabulaire des tribunes. Et elle s'est vautrée magistralement là-dedans, alors que le problème du racisme et des discriminations dans le football, il est beaucoup plus profond que ça.
Rappelle-toi Coupe du Monde en 2010, malheureusement, lorsqu'il s'immisce dans ces problèmes sportifs, ça prend des proportions.
On dirait un éléphant sur une patinoire.
Eh oui.
Merci, messieurs. Une courte pause. La première de cette émission qui est Tam Sport, 19h, 20h, le 0153 48 3000. Vous restez avec nous, on revient avec de la Ligue Europa et le fameux match entre le Stade Rennais et le Celtic de Glasgow.
Tam Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h, 20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de vos consultants ce soir pour la dernière émission de la semaine. Kamel Aïd Kaira, je le rappelle, Brice Taï, Claude Tollé, Bruno Ayo, Haider, Naïmi sont de la partie. Petit clin d'œil à Sokaïna, la graphiste aussi, Yasmine et Farid, nos community managers, sans oublier le coordinateur de cette émission, Jouba, et le rédacteur en chef, Madou Lamine Mané. Voilà, pour ça, pour les petites dédicaces aussi à venir au cours de cette émission, on a parlé de la Gantoise et Saint-Etienne, mais aussi du Parc des Princes, c'est de la campagne politique de certains pour les municipales de 2020. On va s'attarder sur l'Europa League avec les consultants de votre émission Time Sport.
Time Sport, la victoire.
Justement, le Stade Rennais a été tenu en échec, on ne croyait pas, par le Celtic Glasgow, les Écossais. Un but partout ce jeudi en Bretagne pour son entrée en lice dans la compétition. Fort de son début de saison en championnat, certes, et de son expérience de la saison passée dans la compétition, n'attendez-vous pas que le Stade Rennais aborde cette nouvelle campagne, tout de même Haider, et aussi toi Bruno, de Ligue Europa, avec beaucoup plus d'appétit. On t'écoute, Brice.
Je crois que le résultat est décevant pour Rennes. Je crois que Rennes, en fait, peut être quand même très ambitieux parce qu'on a vu l'année dernière un parcours quand même assez exceptionnel. Ils ont vaincu un peu le signe indien, on les voyait comme des losers et ils ont réussi à aller au-delà des attentes. Et il y a aussi cette victoire en Coupe de France. Donc je crois qu'on est quand même en droit d'attendre de l'ambition de la part de Rennes. Et ça commence un peu moyennement. Maintenant, faut voir. Après, c'est un groupe de 6. Ça peut, rien n'est joué, mais c'est vrai que c'est pas un groupe non plus qui est si facile que ça. Donc Rennes va quand même devoir faire beaucoup mieux.
Rennes, pour toi, moi je suis beaucoup mieux selon Brice.
Je suis déçu sur le plan européen parce que je vois bien qu'ils ont un super début de saison. Ils se disent qu'il faut faire le plein pendant qu'ils sont en forme pour atteindre leurs objectifs. Alors je sais pas si leur objectif c'est encore uniquement la Ligue Europa ou s'ils vont encore essayer de choper la troisième place. Moi l'année dernière, il m'avait plu Rennes parce que avec le recrutement d'Atem Ben Arfa, je me suis dit, et à juste titre parce qu'ils avaient fait une belle saison européenne, une belle saison tout court, je me suis dit bon, ils ont passé un palier, d'autant plus que tout le monde sait, enfin peut-être que tout le monde ne sait pas, que Rennes quand même appartient à l'une ou la plus grosse fortune de France. Et on est en droit d'attendre, d'attendre un vrai projet de la part de Rennes. Alors,
combien de fois Kamel et Claude l'ont dit sur l'antenne.
On sait que c'est un club sérieux, c'est un super club formateur qui nous sort des bons joueurs assez souvent, comme Ousmane Dembélé par exemple. Mais de la part de Rennes, franchement, on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors c'est devenu une valeur sûre du championnat de France. Maintenant c'est pareil. Est-ce que ils veulent vraiment se doter d'une culture européenne? Ou est-ce que ils veulent perpétuer cette tradition française d'être des gentils losers en Coupe d'Europe? Et qu'un autre club soit comme ça, ça passe. Rennes, ils n'ont pas d'excuses parce qu'ils ont des moyens illimités. Faudrait espérer en fait qu'un jour un héritier de la famille Pinot soit un vrai mordu de foot et que ce soit lui qui reprenne les rênes de Rennes.
Voilà. Alors, oui, d'accord avec ça.
Parce que lui, le stade Rennais, lui, c'est juste une vitrine. Hein, il n'est pas dans cette démarche d'investir comme
on
voudrait, bien sûr. Maintenant, le stade Rennais revient quand même de loin. Il ne faut pas oublier que depuis 71, pas de trophée. Donc, le fait d'avoir gagné cette Coupe de France face au PSG. je dis pas relève du miracle, mais voilà, on les considérait comme des losers. Il manque pas grand-chose vraiment à Rennes pour franchir vraiment ce cap. Et faut pas oublier quand même que la saison dernière, il y a certes eu ce super parcours en Coupe d'Europe, mais ils finissent qu'à la 10e place, hein, le Stade Rennais. Donc, faudrait qu'ils soient beaucoup plus réguliers. Déjà au niveau du championnat, il y a le potentiel, il y a tout pour hein, ouais. Au Stade Rennais. Maintenant, par rapport au match d'hier, le coach a voulu, on en parlait tout à l'heure sur Saint-Té, c'est qu'il a voulu aussi un petit peu faire tourner des joueurs qui avaient été suspendus, qui manquaient un petit peu de temps de jeu.
On manque de maîtrise peut-être.
Et puis ils se sont fait clairement.
Ils respectent pas la compétition.
Quand même.
Excusez-moi, on parle de qui là? On parle de Rennes.
Stade Rennais.
C'est Stade Rennais, c'est pas
les amis bretons.
Voilà, ils ont gagné une Coupe de France dans leur vie. Et on a l'impression depuis qu'ils ont. On va leur accorder la deuxième. Depuis qu'ils ont gagné celle de l'année dernière, on a l'impression qu'ils peuvent aller en Ligue des Champions et être champions de France. C'est-à-dire, ils ont gagné une Coupe de France parce que Paris a pris le match.
Non, mais ils reviennent de loin, c'est ce qu'on dit.
Ouais. Comment? Attends, je termine. Je peux terminer ou pas? Oui, j'ai le droit.
Bien sûr.
Si on n'a pas le droit de dire du mal du Stade Rennais, on n'en dit pas et on s'arrête. Donc je pense qu'ils sont à leur niveau. Après, eux, ils sont dans le. Ils se disent l'année dernière, on a fait une longue campagne européenne, on a terminé 10e. Peut-être qu'ils veulent pas en faire une longue pour terminer 3e ou 4e. Je pense qu'on est dans ça. Ils jouent pas à fond. Les clubs français, comme on l'a dit tout à l'heure, ne jouent pas à fond la Coupe d'Europe parce qu'ils ont peur d'être fatigués et de se blesser. Ouais, c'est alors, tout.
Bon, bien sûr.
Après, hier, et toi, Bruno, c'était pas les deux meilleures équipes de l'Europa League. Là, on peut dire, je pense que Rennes, voilà.
Ouais, quand même.
C'est le premier match. Ils sont dans un groupe très faible. Il y a vraiment que le Tcheferekou.
C'est pas ça.
Qui a l'air pas mal, mais encore. Donc. Franchement, voilà, c'est un match nul. On verra bien la suite, mais pour autant, les carottes sont pas cuites. Mais
on l'espère.
C'est pas le groupe le plus alléchant de la Ligue Europa.
Ouais.
Par exemple, le groupe de la Gantoise avec
les Belges,
avec Saint-Té, je sais plus qui y a dans ce groupe. Mais ce groupe-là, dans sa globalité, m'a l'air déjà beaucoup plus intéressant.
Ouais, réaction. Les Rennais, ces équipes françaises. Haider, Claude.
On est évidemment tous déçus. Enfin, on attend beaucoup mieux de Rennes. Après, de là à dire que.
Moi, je suis pas déçu. Hein. Je suis pas déçu, Brice. J'attendais pas mieux de Rennes. Hein. Franchement, je suis pas déçu.
Bah après, quand même, un huitième de finale. Après, le fait
après,
qu'ils
aient. C'est Celtic aussi, hein, qui est un gros en Europe. Pour eux, chaque match européen, c'est vraiment un truc.
Voilà. Et c'est là, où je veux en venir. Et c'est là où je veux en venir. En fait, alors, évidemment, on doit être quand même un peu plus ambitieux pour Rennes. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je suis déçu après le parcours de l'année dernière. Maintenant, de là à dire qu'ils ont balancé la compétition, je pense qu'en fait, il y a aussi un manque de culture européenne à Rennes. Enfin, je pense que il faut revenir régulièrement. Sa Coupe d'Europe, c'est un peu différent. Il faut mettre un peu d'autres ingrédients. Et voilà, je pense que Rennes, pour l'instant, peut-être n'a pas forcément les moyens de faire mieux.
Il est pas mal le gros Bruno. Il y a la Lazio, il y a le Celtic, il y a Cluj.
Ça va être compliqué.
De toute façon, le ton est donné dès le marché des transferts. Quand les clubs se qualifient en Ligue des Champions, ils font leur petit marché en fonction, ils forment un effectif pour jouer le championnat sérieusement et la Ligue des Champions aussi. À partir du moment où le mercato il est pas terrible, déjà ça donne le ton. Ensuite, moi pourquoi je suis déçu? Effectivement, Rennes, on n'attend rien de Rennes, c'est pas l'OM, c'est pas Lyon, mais depuis que le PSG vampirise le championnat de France, que l'OL se remet difficilement de son endettement par rapport à son nouveau stade, que c'est la déconfiture à Monaco, que Marseille c'est les montagnes russes, il y a une place à prendre en championnat de France.
Non, c'est trop haut.
Non mais je veux bien, mais ils ont les moyens. Rennes a les moyens. Oui, mais ils ont les moyens de sortir.
Ils sont pas calibrés pour aller sur le podium.
Mais moi je parle même pas d'aller sur le podium. Au moins de devenir un outsider sérieux.
Ils ont les moyens dans les saisons à venir. Ils ont les moyens.
Outsider sérieux, ils sont pas. C'est même pas. On sait que c'est l'équipe coriace, mais même.
Non mais ils sont pas calibrés. Ils sont calibrés pour être dans le top 6, top 7.
C'est même pas qu'ils sont. Ils sont même pas calibrés. C'est que même psychologiquement. Ils osent même pas croire qu'ils pourraient atteindre la troisième place.
Ça, je suis d'accord.
Ils jouent petit gras.
C'est pas les seuls. C'est pas les seuls.
Ils jouent petit gras. C'est comme quand ils jouent en Coupe d'Europe contre les Glasgow Rangers. Ils jouent petit bras. Ils se disent nous on est Rennes. Et c'est vrai. Ils sont à leur niveau. Et moi personnellement, je n'attends rien de Rennes. Rennes, j'ai zappé sur eux parce que
tu peux quand même attendre qu'ils sortent du groupe quand même.
Mais même pas. Mais même pas. Ils vont pas sortir du groupe.
Ils doivent sortir du groupe.
Bah non, ils vont même pas sortir du groupe.
Ils doivent sortir du groupe.
Non, mais c'est un groupe compliqué quand même.
Bien sûr.
Et même Cluj, en fait, qui est finalement.
C'est une belle équipe, hein.
Pas mal cette saison, non, quand même. Après, comme je vous dis, de toute façon, Rennes, ils sont en train de revenir. Alors, ça redevient une équipe intéressante. Il faut qu'ils se rebâtissent un projet. Là, ils ont déjà pris Rafinha, qui est franchement un super prospect.
Exactement.
Au niveau européen, ils ont mis 20 millions d'euros sur lui, quand même. Donc, je pense que ça va être une équipe à suivre, mais Je ne sais pas dans quelle mesure on va peut-être consacrer plus de temps à Saint-Étienne, mais Saint-Étienne, le cas de Saint-Étienne est un peu plus intéressant.
On en a parlé en début d'émission, oui, Bruno.
En ce qui concerne la scène nationale, le Stade Rennais a tout pour être une équipe intéressante dans les années à venir en Ligue 1. Maintenant, faut être patient avec le Stade Rennais, on le dit encore. Hein. Ça a disputé des coupes inter-toto il y a de cela 10 ans. Dernière campagne, je crois qu'il y avait l'Atlético en 2011. Mais faut encore construire, faut être patient. C'est vrai que l'année dernière, ils nous ont tellement enchantés avec leur exploit, etc. Parce que c'était aussi le Stade Rennais, on n'avait pas l'habitude de les voir à ce stade là aussi de la compétition en termes de Coupe d'Europe qu'on attend plus. Ils font quand même un bon début de saison. Ils ont été leaders, donc il faut les laisser monter.
Ça va arriver. Tu penses qu'ils peuvent viser là en état le top 5?
Bien sûr.
Ouh là,
ils ont
le
potentiel.
On verra bien.
Bah, ils ont le potentiel.
En avance dans cette émission, place à la 6e journée de Ligue 1 Conforama.
Time Sport. Le duel. Le duel.
Eh oui, un gros duel. Le coup d'envoi de ce match de la 6e journée qui opposera le 6e et le leader de la Ligue 1 se déroulera donc au Groupama Stadium dimanche soir 21h. Ce classico, d'une certaine manière, n'intervient-il pas trop tôt dans la saison, les deux effectifs étant encore en rodage en cette mi-septembre? Je veux bien sûr parler du magnifique Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain à la suite de d'une victoire écrasante du club de la capitale vis-à-vis de son homologue espagnol, le Real Madrid. Pour toi, Haider?
Moi, pour moi, le rodage, il n'y est plus parce que la Ligue des Champions est justement placée en septembre, à un moment où les équipes, ça y est, elles ont terminé leur rodage. On arrive à un moment de la saison où tout le monde est chaud. Tout le monde est censé être en place. Après, il y a un gros souci sur cette belle affiche du championnat de France.
Alors, c'est
que les dernières années, Lyon a toujours pris le dessus sur Paris à Gerland, au Groupama Stadium.
Ouais.
Maintenant,
deux fois de suite. Enfin,
c'était retentissant.
Deux fois de suite.
C'était retentissant. Et le truc, c'est que là, l'expérience assez bizarre de Jean-Michel Aulas de vouloir donner les clés de la maison à Juninho et Silvinho. Moi, je suis pas très
Pourquoi
d'accord.
Pourquoi bizarre?
Parce que moi quand t'as des ambitions, tu fais pas l'apprenti sorcier.
Tu ramènes comme directeur sportif le plus grand joueur de ton histoire.
C'est et pas alors,
joueur. On a l'impression qu'il a ramené le camarade du coin.
L'Argentine a mis à la tête de sa sélection l'un des plus grands joueurs d'histoire du monde. Il s'est vautré.
Diego Maradona.
Moi personnellement, si t'as des ambitions, que tu donnes la direction sportive à Juninho, je dis pas non. Le poste d'entraîneur, tu donnes pas à nos.
Attends.
Ouais. Vas-y, Brice.
C'est Juninho qui ramène Silvinho.
Ouais.
Reprenons l'histoire.
Ouais.
Aulas dit à Juninho: ok, Juni, t'es une légende. Tu viens, je te file les clés du club. Parce qu'on sait que Aulas aussi veut aussi prendre un peu de recul.
Aussi.
Il lui dit: je te laisse. Voilà. Il fait un pari. Après, il n'a pas non plus ramené n'importe qui. Silvinho, quand même, ça fait des années qu'il fait quand même ses armes au sein de la sélection brésilienne. Ils ont ramené, il me semble, je crois, quelqu'un dans le staff qui est, je crois, un des types qui fait les vidéos et tout de la sélection brésilienne. Ça bosse dur quand même à Lyon. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi. Là où en ce moment, c'est un peu bizarre. Après un début en fanfare, c'est là depuis 3-4 matchs. C'est un peu bizarre. On voit les latéraux qui montent pas. Tactiquement, ça se cherche.
Alors,
mais contre Angers, quand même, c'est un feu d'artifice. Il s'est quand même passé des choses. C'est une belle équipe.
On écoute Kamel, merci, Brice.
Contre un Paris Saint-Germain en forme.
Là, c'est autre chose.
Dimanche, Haider, on écoute Kamel.
Alors, moi, je te rejoins totalement, Haider. Et depuis le début de.
Ouais, c'est vrai. Là,
de septembre,
depuis même mercredi, bon, il parlait un peu. C'est chaud contre Silvinho.
Moi, je trouve ça une aberration de mettre Silvinho et Juninho. C'est deux débutants, deux néophytes à des postes clés. Donc, ils vont. Moi, personnellement, Monsieur Aulas, que je respecte beaucoup, va se planter. Lyon va se planter. Lyon a une belle équipe, mais ils n'ont pas des bons coachs. Et donc, ils vont se planter. Parce que tu dis, Brice, attends, laisse pas terminer.
Laisse-le terminer. Vas-y.
C'est l'émission Je te coupe la parole ou on se coupe la parole?
Ouais, allez.
Brice, quand tu dis le poste de directeur technique, le poste de directeur sportif, c'est l'un des postes les plus pointus dans le football. Ouais. Si t'as pas une expérience, t'as pas de carrière d'adresse, tu sers à rien. Tu peux être le meilleur joueur de tous les temps. Si t'es directeur sportif, t'as pas une expérience. Et vous le dites tous quand vous parlez des directeurs sportifs de Monaco, de donc
de Paris, Leonardo.
De Leonardo. C'est, donc ça veut dire un débutant plus un débutant. Moi je te dis, regarde la preuve. Il dit à ses latéraux de ne pas monter.
Non mais attends.
Alors. De jamais monter.
Ça n'a rien à voir.
Alors. Droit de réponse. On parle du coach, s'il vous plaît. Droit de réponse.
Du coach.
Avec Bruno.
Allez Bruno, parle.
Messieurs, s'il vous plaît.
Pas la parole Bruno.
Alors. J'ai juste dit que David définitif.
Bien sûr.
C'est mon avis.
Kamel. On laisse parler Kamel.
Non, allez, bon, non. Tout ça pour que Juninho, il a bossé son truc. C'était son projet de devenir directeur sportif autrement. Il aurait dit, je vais être entraîneur, etc. Donc, il a pensé son projet. Ouais. Il a choisi de prendre Silvinho, qui était l'adjoint de Tite, à la tête du Brésil. C'est quand même pas mal. Après, que Silvinho, dans ses premières semaines d'entraîneur, ait un peu de tâtonnement, pourquoi pas ? Moi, ça me dérange pas spécialement. Et de toute façon, il a une marge de progression. L'année dernière, Tuchel, il a bien fait un mois où à Paris, c'était n'importe quoi. Dans le vestiaire, il se passait n'importe quoi. Aujourd'hui, Tuchel.
Pourquoi quand c'est Gilles Jou, vous dites pas, vous n'avez pas ce même langage ?
Mais alors, parce que Silvinho, il est entraîneur de Lyon depuis 3 mois. Donc laissons-lui un peu de temps.
Gilles Jou a eu du temps quand même.
En plus, l'exploit. Pardon, il y a peut-être quelque chose qui va se passer dimanche, on ne sait pas encore, mais moi je ne suis pas encore pour juger cette équipe de Lyon tout à fait. Je pense que Juninho a quand même dû mûrement réfléchir son choix de directeur sport, d'entraîneur. Il a pris Silvinho à la ramasse, on verra ça très
rapidement. Le coach Tolé, avant la pause.
Moi j'attends de voir parce que ils viennent d'arriver. Bah non Kamel, ils viennent d'arriver. Je pense qu'il est pas bête.
Ils vont plus de vestes réversibles que de parapluies.
Je pense que là ce n'est pas bête. Je pense surtout qu'il est en train de préparer aussi l'avenir parce que il restera pas éternellement et en mettant Juninho à ce poste-là, tu es en train de préparer les avenirs. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que Lyon reste sur 16 compétitions européennes de suite en Ligue des Champions. Et tu t'attends quand même à ce qu'il y ait une continuité. Tu perds quand même Fekir, Ndombele, le petit Mendy. Et tu n'as pas été capable de recruter, pour moi, des joueurs capables d'apporter une puissance supplémentaire à cet effectif qui est de qualité. Mais il manque un truc. Il faut leur laisser le temps.
Ouais.
Deschamps, quand il a commencé, il avait fini 15e à l'AS Monaco. Hein.
Ouais.
Avant et la suite on la connaît. Donc
c'était un débutant.
Comme et je laisserai le temps dans t'inquiète pas Kamel et même aussi pour Aider ou encore pour Brice pour parler de ce fameux Lyon-Paris. Hein, on a encore de la place dans cette émission jusqu'à 20h. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. N'oubliez pas la Twittosphère pour nous faire réagir aussi avec vos commentaires. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman.
Et de retour pour la dernière partie de cette émission qui est Time Sport, jour de veille de week-end plutôt, en ce vendredi soir sur l'antenne de Beurre. Je rappelle autour de la table pour m'accompagner, il y a Kamel, Brice, Claude Tollet et aussi Bruno, sans oublier Aider. On parlait de ce fameux match de la 6e journée de Ligue 1 Conforama qui aura lieu du côté du Groupama Stadium ce dimanche soir 21h. Il opposera Lyon au Paris Saint-Germain. Il voulait tant parler, et oui, il a parlé, il m'a même saoulé durant la pause, c'est le coach Tollet. Voilà, je vais te donner la parole justement. Avec les gones pas très à l'aise sur le rectangle vert en ce moment, vont recevoir cette équipe du Paris Saint-Germain qui fonctionne sur courant alternatif d'une certaine manière. Le beau jeu sera-t-il tout de même au rendez-vous, Claude ?
Le beau jeu, faut qu'il soit déjà prêt d'un point de vue mental, les joueurs lyonnais, parce que tu affrontes une équipe du Paris Saint-Germain qui a fait une magnifique démonstration face au Real Madrid en début de semaine. Maintenant, la Ligue 1 c'est différent de la Ligue des Champions et ça peut être. On va voir la réaction lyonnaise par rapport à cette équipe du Paris Saint-Germain, ce qu'ils ont dans le ventre. Je pense qu'on les a vus un peu trop beaux aussi. Je pense que on cherche tellement des concurrents au Paris Saint-Germain qu'au bout de 2 journées, on se demandait tout de suite si Lyon allait concurrencer le PSG au moment où les Parisiens s'inclinaient à Rennes.
Et inversement, on est vite déçus, coach.
Oui, on est vite déçus. Maintenant, tu avais un problème de manque de régularité de la part des Lyonnais. Ça ne s'efface pas comme ça. Même si tu arrives avec qui que ce soit, faut que ça demande du temps. Maintenant, quand tu es à Lyon, tu dois être capable d'avoir les résultats et de te qualifier. Ils se qualifieront, ils finiront dans les 2-3 premiers sans aucun problème. Mais il faut leur laisser le temps. Alors, et ça va arriver.
Moi, pour revenir sur l'analyse des choix technique de Jean-Michel Aulas. Alors déjà, Juninho, quand bien même il aurait fait une formation dans ce sens-là et tout, je lui aurais donné un truc qui marche super bien à Lyon, histoire de voir s'il assure, c'est le centre de formation. Tu veux être directeur sportif ? Prends le centre de formation, montre-moi ce que tu vas en faire. Déjà d'une, parce que c'est une institution à Lyon et en France. La deuxième chose, moi j'ai une règle d'or. Un coach qui ne parle pas la langue de ses joueurs pour moi, n'a rien à faire sur le banc. Tu perds du temps, tu trouves pas les mêmes mots. Pour moi, un coach qui parle pas la langue de ses joueurs, Silvinho, après, les Brésiliens ont une capacité à apprendre le français très rapide. C'est une certitude. J'espère pour lui qu'il va parler le français aussi bien qu'Anderson, Juninho et tous les autres, Leonardo Rai, très rapidement. Mais un gars qui parle pas français, pour moi, tu le prends pas.
Lyon a
tellement les moyens d'avoir des valeurs sûres que ça fait combien de temps que Lyon, à une époque, il nous sortait une pépite brésilienne tous les ans. Edmilson, Chris, Juninho, maintenant ils sortent plus personne. Peut-être que le directeur sportif, il y avait à l'époque des gars comme Gérard Rouillet, il y a des valeurs sûres en France. Le directeur sportif, c'est quoi? C'est un gars qui connaît bien le terrain, qui est un peu trop vieux pour aller se taper les séances d'entraînement et brailler au bord de la touche le samedi soir. Il y a plein de valeurs sûres en France.
Ouais. Tu penses à qui? Parce qu'apparemment, t'as des réponses.
Pour le ressortir du placard.
Faut arrêter les bêtises. Et bien, il coach,
Kamel, et on aura
aussi. Et son information, il y a qui? Tu prends qui au centre de formation?
Actuellement,
tu prends qui au centre de formation? Sors-moi les noms, parce qu'apparemment, tu fais du scouting.
Il fait pas du scouting, dont tu vas entendre parler, mais de manière explosive dans les années à venir. C'est pas l'Atem Ben Arfa, mais le petit Cherki. Le petit Cherki, c'est
on se languille.
Ryan Cherki retient bien ce nom.
Maintenant, je suis entièrement d'accord avec toi sur, parce que ce que je disais, en France, c'est, on choisit de bien parler des entraîneurs selon leur nationalité.
Bon, quand même.
Je veux dire, quand Emery parlait pas français, tous les journalistes se moquaient de lui, le critiquaient.
C'était bidon tactiquement.
Je suis pas énervé parce que tu coupes la parole pour rien du tout, donc c'est pas constructif. Je te dis, peut-être qu'il était bidon tactiquement, comme tu dis. Ça, je te laisse tes paroles à. Mais souvent, les journalistes, ils le critiquaient parce qu'il parlait pas français et disaient ça perd du temps.
C'était pas que ça.
Et là, par rapport à Silvinho, le fait qu'il parle pas français, ils disent non, c'est pas un problème. Il parle d'autres langues, comme si que tous les footballeurs ils étaient polyglottes et parlaient d'autres langues. Donc je veux dire, déjà, il y a une perte de temps au niveau du langue. Faut faire traduire. Il a aucune expérience. Waouh!
Et vous laissez marrer, vous voulez toujours laisser du temps.
On laisse Bielsa en Ligue 2, l'équivalent de la Ligue 2 anglaise.
Raymond Domenech, il est parfaitement francophone. Bon,
parle-moi de ce match Lyon-Paris avec Silvinho et ses hommes. Kamel.
Non, mais après. Mais il aime bien les chemises blanches de Silvinho. Il aime bien.
J'aime
bien les chemises blanches.
Je te donnerai la place de
Kamel, s'il te plaît, Kamel, s'il te plaît.
Non, mais très franchement, moi, je pense pas que le problème ce soit ça. Gus Hiddink en 2002 quand il entraîne la Corée du Sud, je pense pas qu'il soit parfait polyglotte.
C'est le mauvais exemple.
Dès qu'on trouve un exemple, c'est marrant, mais
moi j'ai vu tous les matchs de la Corée à cette Coupe du Monde, donc ça c'est autre chose.
Après, c'est l'équipe nationale.
Après, pour dire que Silvinho, je pense que c'est un bon entraîneur avec un bon potentiel qui a appris dans la sélection brésilienne, qui a bossé et que Juninho connaît bien. Mais il faudra un peu de temps. Et cette équipe de Lyon est très jeune. Et comme on a dit hors antenne, Depay, dans certains de ses choix de jeu, par exemple mardi face au Zénith, il ne respecte pas le jeu. Et pour un leader technique, il ne donne pas ce qu'un leader technique doit donner dans un match décisif de Coupe d'Europe. Donc voilà, moi je pense que cette équipe de Lyon, il faut lui laisser un peu de temps. Juninho, il est en train de ramener ses réseaux. Là, ils ont sorti Jean Lucas, qui est vraiment pas mal comme joueur. Mais voilà, qu'il faut s'adapter à l'Europe, etc. Alors, que je trouve ça un bon joueur. Tous ces réseaux vont commencer à se mettre en place.
Merci.
Bruno, de leader technique, moi je pense qu'effectivement, si on devait adresser quand même une critique au staff lyonnais, c'est peut-être que ce recrutement, en fait, justement, manque d'un joueur vraiment de dimension internationale pour mener un peu tout ce beau monde. Perds quand même des joueurs quand même de grande envergure. Tu perds quand même Dombélé, tu perds Fekir, Ferland Mendy. Ouais. Effectivement, peut-être que dans le recrutement, il manquait quelqu'un. Voilà, avec une vraie envergure internationale. Il y a eu des paris qui ont été faits.
Je te laisse terminer. Saison dernière, l'homme en Ligue des Champions pour qualifier l'OL, c'est pas Depay, c'est Fekir. Non, je te laisse.
Moi, je suis pas forcément d'accord là-dessus.
Le but à City, le but à...
On poursuit, Brice. Ouais, ouais. Tu n'es pas d'accord, je m'en fous que si tu n'es pas d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sixième journée, Brice. La sixième journée, s'il vous plaît.
À Lyon, qui a toujours eu à l'époque Sonny Anderson, Juninho, là, on ne l'a pas depuis quelques temps. Ça, c'est
on poursuit avec toi, Brice, justement, ce que tu étais en train de dire.
Moi, j'écoutais mes camarades attentivement, parce qu'apparemment, ils avaient à dire. Non, mais voilà, moi, je pense qu'effectivement, il manque un joueur à envergure internationale. Et ça, vraiment, s'il y avait une critique à adresser, je pense à Juninho. C'est ça.
Ça coûte cher.
On est d'accord.
Il n'a pas raison. Là, t'es en 2020, ça n'a plus rien à voir.
On parle de joueurs en valeur internationale. C'est au moins
c'est
40 millions d'euros.
Lyon avait un vrai projet sportif.
Non.
Ils se plaignent de ne pas avoir les moyens d'acheter les meilleurs joueurs. Pourquoi tu vends Ndombele? Si vraiment t'as un projet sportif.
Ils ont besoin. T'as acheté un mec moins de 10 millions d'euros. T'as Tottenham qui vient, qui se présente avec combien? 70 millions d'euros.
Ouais. Tu fais une belle
70 millions d'euros.
Et tu dis non, mais à un moment, un club de football,
c'est aussi une entreprise. Tu parles de projet sportif, ça va aussi au-delà des 11. Que tu mets sur la feuille de match, c'est aussi en dehors.
Donc ils
avaient
l'argent.
Il
n'y
a pas de projet sportif à Lyon.
Et Brice a raison. Je suis d'accord avec toi, Brice.
T'as une pépite qui vaut des millions, tu l'as faite chez toi. Gratte encore une saison.
La réalité économique, c'est que malheureusement, mais je suis d'accord avec toi, hein, mais à part le Paris Saint-Germain, personne ne peut se permettre de garder des joueurs comme ça. On n'a pas les moyens en France. C'est une triste réalité.
On aimerait, on rêverait. Ils ont bien vendu Lyon. Ils ont vendu pour beaucoup. Oui. Ils auraient pu acheter un joueur de dimension internationale.
Ils ont besoin de renflouer.
Faut payer le pressing de Juninho et de
Sylvinho. Mais effectivement, il manque un gros joueur.
C'est un businessman avant d'être un mec qui aime le foot. Et que comme
grand président.
Mais non, mais à un moment, grand président. Non, mais attends, Ider. Non, mais attends, on va être sérieux.
Dernière rubrique de cette émission.
Palmarès de Lyon,
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, on n'est pas d'accord avec Aider, on n'est pas d'accord avec Brice, peut-être. C'est comme ça, en tout cas, on prend la direction du pays du soleil levant. Mais quel spectacle! Mais en tout cas, il a bel et bien commencé ce vendredi 20 septembre, aux alentours de 12h30. Eh oui, il opposait pour le match d'ouverture de cette Coupe du Monde 2019 de rugby, le Japon, le pays hôte, face à la Russie. Et justement, le score a été de 30 essais à 10. Pour le Japon. Et oui, c'est ces sélections montantes telles que le Japon, telles que les Pumas d'Argentine, justement entre le Japon et la Coupe du Monde de rugby, l'amour n'a pas toujours été réciproque. Mais nous, mis à part cette victoire japonaise, on aimerait s'attarder sur l'équipe de France, la sélection du 15 de France, 3e de la Coupe du Monde. On le rappelle, la France recule tout de même de 2 places et est désormais 5e derrière l'Australie et l'Argentine au classement des nations du rugby. Où, selon vous, on pourrait situer ces bleus dans la hiérarchie du rugby mondial? Haider, on t'écoute.
C'est simple, si on doit se fier à l'histoire, à chaque fois que la France...
Il y a eu du remue-ménage,
À chaque fois que l'équipe de France est arrivée en ayant fait un tournoi des 5 nations catastrophiques et plein de choses catastrophiques...
6 nations, pardon.
Ouais. Ils ont fait des super coupes du monde. Après, si on doit être très réaliste, je pense que ça va être catastrophique. Mais avec un grand C.
Clairement, on va être fixé demain. Parce que quand tu regardes ce groupe...
Et ça, face à l'Argentine.
Tu regardes ce groupe, en fait. Bon, je pense que les Anglais sont hors de portée, malheureusement. J'aimerais qu'il y ait un exploit, mais ça va vraiment être compliqué.
Ouais.
Clairement, la deuxième place se joue entre les Pumas et nous. Ça va être chaud. Après, de la dire catastrophique, honnêtement, on se prendra pas une raclée. Il faut pas non plus déconner. Si on perd, je vois pas pourquoi on se prendrait une raclée. Les Pumas sont pas non plus largement au-dessus de nous. Donc, non, ça va être un match décisif. Après, c'est vraiment hyper important pour le rugby français. Parce que là, clairement, si on passe pas le cap...
Non, mais comme
des quarts de finale, c'est chiant quand même.
Ouais.
Mais bien sûr qu'on a régressé, mais ça fait plusieurs années.
On sait que c'est une équipe depuis 2007. On sait que c'est une vraie nation du rugby.
Ça monte en puissance.
Je crois qu'ils participent maintenant aux Tri-Nations, enfin, quoi, au tournoi
de l'Espulfer. Tu découvres le rugby, Aïda.
Non, je ne découvre pas. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas suivi. Ce que je veux dire, c'est qu'à une époque, France-Argentine, si l'Argentine gagne, c'est un exploit de l'Argentine.
Mais c'était quand ça?
Maintenant,
c'était il y a très longtemps. C'était il y a très longtemps. En 2007, en 2007, il nous bat pour la troisième place, il nous bat pour le match d'ouverture. Donc ça fait très longtemps.
Ça fait quand même
il y a 12 ans.
Maintenant que l'Argentine bat la France,
un petit peu.
Argentine-France, c'est 50. Mais
ça fait quand même très longtemps.
Et là, il y a une grosse régression.
Ça fait très longtemps. Mais la régression, c'est pas juste l'Argentine.
Il y a un gros doute sur l'international. L'ancien international.
Le paradoxe, c'est qu'il y a une régression. En même temps, on se retrouve avec l'un des championnats les plus importants de la planète. Et le souci qu'on a au sein du rugby français, c'est que ils ont pas mal jalousé le football, mais eux-mêmes aussi franchissent un cap, ils changent de dimension clairement, et ça leur fait mal. Et ça nous fait mal aussi
syndrome,
à notre.
Ils ont syndrome Première Ligue.
Première Ligue, ça, absolument. Ça nous fait mal. Mais même au niveau économique, au niveau structure.
C'est le premier championnat du monde.
Ce qui est vrai.
Et le problème, c'est que ça pénalise les centres de formation.
Ouais.
On est en plein syndrome footballistique de la Première Ligue.
Ça promet, hein. C'est, le match aura lieu demain. Les Argentins, les Pumas promettent l'enfer au 15 de France. Nous, on remercie toutes les auditeurs et les auditrices. On vous donne rendez-vous lundi à partir de 19h. Et un grand merci à toute l'équipe de Timesport. Bye bye.
Allez les Bleus. Retrouvez Timesport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.